Les infos. À Washington.
Et Kabadou avec vous, il est 19h en temps universel. Dans 5 minutes, vous avez rendez-vous avec l'émission L'Amérique et vous avec Morgane Guiriec. Mais tout d'abord, on fait le tour de l'actualité en 5 minutes. Deux anciens bourgmestres rwandais ont vu leur condamnation à la réclusion à perpétuité confirmée en appel par la justice française pour leur participation au génocide des Tutsis dans leur village de Kabarondo, dans l'est du Rwanda, en avril 1994. Le point avec Bagassi Koura.
Octavien Nguenzi, âgé de 60 ans, et Tito Barahira, âgé de 67 ans, ont été jugés coupables de crimes contre l'humanité et génocide pour une pratique systématique d'exécution sommaire tendant à la destruction du groupe ethnique Tutsi. Les deux anciens bourgmestres, entourés par leurs avocats, ont 5 jours pour former un éventuel pourvoi en cassation. Les deux hommes, qui se sont succédés à la tête de la commune de 1976 à 1994, ont nié toute participation au tuerie à Kabarondo. Ces massacres ont eu lieu le 13 avril à l'église. Près de 2000 personnes ont été pilonnées au mortier, puis découpées à la machette. C'est la deuxième fois que la justice française se prononce dans un dossier lié au génocide rwandais. L'ancien capitaine de l'armée rwandaise Pascal Simbikangwa a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle.
Dans un rapport examinant la situation en République démocratique du Congo ces 3 derniers mois, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, demande de faire davantage pour garantir en décembre prochain une présidentielle et des législatives crédibles et ouvertes. Toujours en République démocratique du Congo, le Conseil des droits de l'homme de l'ONU lance un cri d'alarme devant les graves violations dans la région du Kasaï, dans le centre du pays. De nouveaux experts vont être dépêchés sur place. En République centrafricaine, Médecins sans frontières a suspendu ses activités à Bria, dans le centre-est du pays, réaction à l'attaque de sa base locale par des hommes armés. Au Bénin, la révision de la constitution souhaitée par le président Patrice Talon et autorisée jeudi soir par le Parlement va être soumise à référendum, la majorité de députés nécessaires à son adoption n'ayant pas été atteinte la nuit dernière. Le nord-est du Nigeria, foyer du groupe Boko Haram, est entré dans une phase de stabilisation post-conflit malgré les attaques persistantes, a déclaré ce vendredi le président Muhammadu Buhari. L'insurrection islamiste depuis 2009 a fait au moins 20 000 morts et plus de 1,6 million de déplacés selon les Nations Unies. Au Sénégal, des milliers de moutons, bœufs et chevaux ont péri la semaine dernière en raison des intempéries et du manque d'aliments. Le président Macky Sall a précisé que près de 23 000 têtes de bétail ont été décimées. En visite hier dans la zone touchée, dans le centre du pays, il a offert 1 milliard de francs CFA aux victimes. Le président Macky Sall est candidat à sa propre succession en février 2019. Au Zimbabwe, les élections générales du 30 juillet, les premières depuis la chute de Robert Mugabe en novembre, constituent un test déterminant pour l'avenir du pays, a estimé le chef de la mission d'observation de l'Union européenne lors d'une conférence de presse dans la capitale d'Harare. Les scrutins de l'ère Mugabe ont souvent été contestés pour fraude et violences attribuées à son régime. Son successeur Emmerson Mnangagwa a promis à multiples reprises que les élections de la fin du mois seraient libres et transparentes. Un des fils du président de Guinée équatoriale, Teodoro Obiang, est recherché par la police suisse après avoir percuté un véhicule des forces de l'ordre. Selon un quotidien suisse, la police genevoise est intervenue au domicile de Justo Obiang, près de Genève, après avoir été appelé par un médecin qui estimait nécessaire de l'hospitaliser. Le trentenaire qui possède la nationalité suisse, se serait opposé à cette mesure, puis aurait pris la fuite à bord de son véhicule. À minuit, heure de Washington, soit 4 heures en temps universel, les droits de douane de 25% décidés par le président Donald Trump sont entrés en vigueur sur un total de 34 milliards de dollars d'importations chinoises. Par ailleurs, la Russie a annoncé l'introduction de surtaxes sur une série de produits américains en réponse aux barrières douanières imposées par les États-Unis sur l'acier et l'aluminium dans un contexte de guerre commerciale au niveau mondial. Le secrétaire d'État américain Mike Pompeo est arrivé à Pyongyang. Il tentera d'obtenir de Kim Jong-un des engagements plus précis sur la dénucléarisation après le sommet entre les dirigeants nord-coréens et le président Donald Trump. C'est la fin de ce bulletin. Dans quelques instants, vous avez rendez-vous avec Morgane Guiriec pour l'Amérique et vous.